Est-ce que vous pouvez vous présenter aux lecteurs de Tunisie Foot?
Oui, ben Moaz Borquez, j'avais joué à l'Espérance Sportive de Tunis dans les catégories école, minime, cadet, junior, génération Chokri Louer et d'autres. Par la suite, j'ai quitté le territoire tunisien pour aller au FC Sion en 85. Donc après avoir effectué une préparation avec l'équipe Espoir avec Amar Ildo, qui était à l'époque entraîneur de la première équipe de l'Espérance et puis Simelière. Par la suite, j'ai intégré donc le FC Sion dans la formation. Et là, j'ai eu la chance donc de côtoyer des entraîneurs qui m'ont inculqué une base plus solide concernant le jeu et la formation. Par la suite, j'ai continué en Suisse à être prêté par le club parce que la concurrence était rude arrivant au senior. Et puis à l'époque, on avait encore la concurrence directe, c'était avec le joueur Roberto Assis, qui n'est autre que le grand frère de Ronaldinho. Donc voilà, par la suite j'ai joué, j'ai été prêté dans des clubs où j'ai pu faire une saison 89-90, je suis sorti meilleur joueur donc en Ligue 2. Et par la suite j'ai tout de suite commencé avec ma formation donc scolaire et autres à côté des études, une formation jeunesse et sport qui m'a permis d'être moniteur jeunesse et sport et puis par la suite devenir maître de sport et en même temps en parallèle donc suivi la formation d'entraîneur de football. C'est ce qui m'a permis petit à petit à obtenir donc la UEFA en 2001-2002. Donc ça fait passer 16 ans que j'ai ce sésame là. Et aujourd'hui, vu la conjoncture et puis vu la nouvelle législation, je pense que je vais opter gentiment aussi pour finir la formation dans le UEFA Pro. Donc ça sera le dernier volet de formation d'entraîneur. Donc j'ai occupé très jeune des postes de formateur, par la suite d'entraîneur-joueur. Et ensuite, j'ai fini entraîneur-joueur à l'âge de 38 ans pratiquement. Avant ça, j'ai eu quelques aventures auprès de la centre de formation du FC Sion. J'ai opéré pendant deux périodes. La première période, c'était 97-98-99, où j'ai pu obtenir donc le doublé avec une bonne catégorie de jeunes moins de 18 ans. J'avais sorti quelques joueurs qui sont devenus internationaux. Par la suite, je suis retourné encore une autre période, c'était en 2010 jusqu'à 2012. J'ai pu obtenir aussi un titre, un trophée qui est devenu pratiquement la tradition au FC Sion, c'est la coupe, que ce soit la première équipe ou bien les jeunes. Et puis chaque fois, j'ai continué à avoir d'autres expériences et des formations concernant tout ce qui touche à la psychanalyse, tout ce qui touche la diététique, tout ce qui touche la physiologie de l'effort. J'ai pu obtenir aussi un diplôme de thérapeute. Je me suis toujours intéressé à tous les métiers qui toucheraient le sport, le football, notamment le management. Donc tous ces petites choses là m'ont permis d'avoir un bagage qui me donne un petit peu les possibilités de trouver peut-être les solutions, que ça soit relationnel ou bien les solutions sportives, technico-tactiques sur le terrain. Donc alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, je pense que le contact toujours avec mes supérieurs et puis avec mes collaborateurs et mes joueurs, j'ai jamais eu de soucis, donc j'ai toujours trouvé des solutions, je me suis adapté facilement et j'ai poussé les gens aussi à apprécier ma manière de collaborer et voilà, alhamdoulilah, cette année c'est une année un petit peu spéciale du moment où il y a un challenge avec un grand club de renommée qui est le MCO qui essaie de remonter une équipe pour revenir au niveau de au devant de la scène, c'est dans les prochaines années à venir là. Donc là, cette saison, le challenge, ça a été d'intégrer pas mal de jeunes qui sont issus de l'équipe Espoir. Et puis là, aujourd'hui, on en arrive pratiquement à 8 joueurs qui sont dans le contingent, dont 4 joueurs qui jouent régulièrement, d'autres qui rentrent par petit moment dans les matchs en continuant leur formation et leur progression. Donc, Inch'Allah, cette saison-là, on va encore sortir quelques jeunes que, depuis le début de la saison, c'est devenu une surprise pratiquement pour les supporters et les spectateurs. Mais, Inch'Allah, maintenant, on va continuer pour que ces jeunes-là ne soient pas un feuille de paille. Donc, et qu'ils vont continuer à travailler et puis à progresser dans la durée. Donc, pas que ça soit juste un feu d'artifice ou un...
voilà. Comment vous êtes venu à travailler en Algérie? On sait que vous avez eu deux passages. Comment c'est venu le premier passage et le deuxième passage?
Bon, le premier passage, ça a été par pratiquement mon directeur technique à l'époque, qui était mon formateur, parce que j'ai subi pratiquement un apprentissage d'entraîneur, pas seulement des cours par-ci par-là auxquels donc on participe et on a le papier. Donc cet apprentissage-là a constitué vraiment une formation intensive sur 3 ans. Et là, Monsieur Charlie Rosli, qui était aussi le premier concepteur du centre de formation de haut niveau en Suisse, après être passé par la SEC Mimosa d'Abidjan. Donc c'est lui qui m'avait proposé l'idée de l'accompagner ici en Algérie. Au début, ça a été comme adjoint. Malheureusement, comme adjoint, donc le bureau de l'entente de Sétif à l'époque, on avait un qui était Toufiq Rouabir. Donc il m'avait proposé comme préparateur physique du moment dans ma formation. Donc j'ai pu aussi être dans la préparation. C'est clair, hein, un entraîneur il doit tout savoir, il doit tout comprendre, connaître, améliorer, approfondir ses connaissances. Donc j'étais venu avec lui à Sétif. Je me suis occupé du volet de la préparation physique. Et je pense à l'époque le travail était bien fait, que tout le monde a cru à un moment donné que j'étais que préparateur physique. Mais alhamdoulilah, ça montre que j'ai réussi aussi à ce volet. Donc la deuxième expérience a été un rappel depuis Monsieur Savar, Abdelkrim Savar, qui était devenu président à l'USMBA. C'était 7 ans après, donc en 2014. Il avait proposé un duo avec Monsieur Geiger, Alain Geiger, donc que je salue au passage. Mais au dernier moment, donc Monsieur Geiger avait refusé l'offre, a décliné l'offre plutôt, et moi je m'étais engagé par parole et je pouvais plus faire marche arrière. Donc je me suis retrouvé avec Monsieur Jean-Guy Wallem, qui est un ancien joueur donc du RC Lens, aussi tout à fait. Donc là, j'ai eu une expérience avec lui. On a formé vraiment un duo où il y avait beaucoup d'entente. On a pu former une équipe avec 18 joueurs nouveaux d'un coup à l'USM Belarbès. Malheureusement, l'aventure s'était arrêtée à la fin de la phase aller, en laissant l'équipe dans les 6 premières places. Par la suite, le club a dégringolé, donc il y a eu la chute en Ligue 2. Donc j'ai été rappelé par le nouveau repreneur dans le feu, Jilal Ibn Sneda, la Yarahmou, qui m'avait rappelé, m'avait proposé l'idée de venir, et il savait très bien un petit peu mes expériences passées en Suisse et autres, ma réelle formation. Donc il m'avait proposé de prendre l'équipe de l'USMBA en Ligue 2. Donc j'ai pris le club la phase aller, on avait fini premier, j'ai laissé le club en bon chemin de promotion. Et c'est ce qui est arrivé à la fin de la saison, tout en gardant contact avec les gens de Belarbès, avec les supporters et les joueurs. Donc par la suite, tout ce beau monde-là m'avait sollicité pour venir fêter la fin de la saison avec la montée du club en Ligue 1. Par la suite, j'ai eu un contact avec d'autres clubs et le choix ou le destin m'avait amené plutôt à Rélizène, où j'avais commencé avec un club qui était un gros challenge. Du moment le club là, on avait démarré avec 2 matchs en moins, avec moins 6 points, avec des joueurs pas qualifiés. Donc le challenge était de se disputer donc à fond la chance du maintien. Chose qui a été réalisée, ne serait-ce que tout simplement le règlement un peu spécial qui ne prend en compte que les buts marqués et encaissés à la phase aller, qui nous a qui a fait que Rélizen ne reste pas en Ligue 1, parce que la phase aller, comme tout le monde sait, avec ce départ, avec au deuxième match, déjà on avait 9 buts encaissés, donc sans avoir joué, au fait, c'est un peu dommage. Voilà, cette année, avec le monsieur Belhaj Baba, le président du MCO, on s'était mis d'accord sur un petit peu une stratégie à opter cette saison-là, qui préparerait une équipe cette saison pour la saison prochaine, un peu plus de stabilité, pour essayer de jouer les premiers rôles.
Quelle attache gardez-vous avec le football tunisien? Est-ce que vous suivez le foot en Tunisie? Ça, c'est sûr. Et est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre le foot en Algérie et en Tunisie, soit au niveau de l'équipe nationale ou au niveau des clubs?
Bon, par rapport à la Tunisie, c'est clair que les premières années, j'étais vraiment à cheval jusqu'à fin des années 90, toujours à regarder pratiquement tous les matchs. Par la suite, un petit peu, j'ai commencé un peu à me détacher, à vivre là, à m'intéresser là où je vis, c'était logique. Donc, sur ces dernières années là, mes visites fréquentes en Tunisie et mes un petit peu les quelques relations qui m'ont amené à aller directement sur les terrains, voir la formation des jeunes, à essayer de peut-être dénicher quelques talents pour essayer de les amener et les aider à évoluer un peu plus peut-être vers l'Europe. Je me suis un petit peu penché sur le volet beaucoup plus de la qualité de la formation et j'ai fait quelques interventions depuis 99, donc lors de mon premier passage à la télévision, où j'ai vraiment parlé de la qualité de formation, de son importance dans l'avenir du football. Voilà, par la suite, en venant ici en Algérie et en allant régulièrement sur la Tunisie, je vois que peut-être sur la formation en Tunisie, on met un peu plus les moyens, notamment même par des gens privés, donc qui ont monté quelques académies de foot privées. Donc il y a un enseignement, à part le volet financier, il y a un bon enseignement qui est donc donné à ces jeunes-là. Au contraire, en Algérie, où je vois qu'il y a déjà, comment dire, le bassin des joueurs est plus grand. Il y a des joueurs qui pourraient représenter un profil très intéressant sur le plan de la technicité et la technique, vitesse de jeu. Mais malheureusement, quand on voit les terrains, le matériel et l'engagement des clubs dans la qualité de formation, c'est pas totalement ça. C'est dommage, parce qu'on sait que c'est vraiment la base de tout. Hein. On ne peut pas ne pas avoir des bons joueurs formés à tous les plans, et ne serait-ce surtout dans l'éducation sportive, pour qu'ils aient un plan d'avenir. Tant que ça, il n'y a pas, on ne peut pas exiger par la suite de l'équipe nationale de remporter des titres et être qualifié régulièrement au championnat du monde. Donc il faut vraiment se pencher sur ce volet-là, et je pense que peut-être avec la nomination de Monsieur Saaden et Monsieur Boualem Cherif dans la direction technique, et puis dans la un petit peu refaire et redonner une nouvelle dynamique pour la formation, je pense pour le futur ça va être bon, mais jusque-là c'est vraiment un secteur très défaillant, malgré le nombre de joueurs talentueux à la base, hein, entre 12, 13, 14 ans. J'ai vu des jeunes donc dans les clubs régulièrement, que ce soit à Belhabès, à Rélizen ou bien ici à l'MCO. Il y a vraiment des jeunes qui maîtrisent très bien cette touche technique de l'Ouest. Elle est là, elle est présente, comme dans d'autres coins dans le pays, mais malheureusement, voilà, on met pas assez les moyens pour la réelle formation. On sait très bien que peut-être la formation n'est pas tellement valorisée. Alors les entraîneurs, dès qu'ils ont un papier qui leur permet, avec X dérogations, de d'entraîner des équipes seniors et gagner un peu plus, même ce serait un amateur, ils le font. Et c'est un peu dommage, parce qu'on devrait beaucoup plus valoriser le travail des formateurs et leur mettre les moyens et financiers et didactiques pour parvenir à former vraiment les futures élites du pays.
Là, dernièrement, il y a eu, je pense que vous avez démarré la mode d'entraîneurs tunisiens en Algérie. Il y a eu le passage d'un entraîneur dernièrement à Al Harrach, M. Daou, et il y avait un autre à la GSK. Est-ce que vous pensez que vous êtes le mentor des entraîneurs tunisiens en Algérie?
Non, je pense dans l'histoire, il y a déjà eu Monsieur Hamadi Hania, Hamadi Hania, qui est venu dans les fin des années 50-60, qui a été joueur et par la suite entraîneur à Belhabès. Je crois lui, c'est le doyen. C'est un monsieur qui est venu directement depuis la France à l'époque où il était déjà professionnel. Donc, dans l'histoire de Belhabès, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Et puis jusqu'à maintenant, chaque année, tant que la santé le permet. Rabbi Khali, donc il vient régulièrement à Belhabès, invité par les anciens joueurs et comités. Donc je pense que c'est lui vraiment le premier, le pionnier. Moi, c'était un concours de circonstances. En plus, je me retrouve pas loin de mon pays d'origine, et tout en disant haut et fort que mon sang est mélangé avec le sang algérien, vu les origines de mon paternel.
J'espère
en tout cas que je sois sur la bonne voie, et puis que d'autres entraîneurs aient un échange comme ça, multiculturel, sportif, parce que le football appartient d'abord à cet échange intéressant de différentes origines. On voit très bien, moi je vois que de temps en temps des personnes montrent qu'ils sont un petit peu gênés de part et d'autre quand il y a comme ça des entraîneurs étrangers, mais non, pas du tout, c'est une richesse pour le football algérien, comme ce fut le cas pour l'Angleterre avec plein de managers et d'entraîneurs qui sont étrangers, en Espagne qui malgré les titres qu'ils ont remportés, ils ont des entraîneurs étrangers, la France qui une usine, une fabrique d'entraîneurs a aussi des entraîneurs étrangers chez elle, l'Italie, donc partout, il faut pas se complexer, il faut pas se dire voilà pourquoi il y a des Tunisiens ou des Marocains en Algérie, c'est la nature du football, c'est comme ça, il y a bien aussi des Algériens qui sont ailleurs. C'est le destin, c'est un petit peu les compétences, c'est aussi la variation, et puis chacun apporte un petit quelque chose nouveau là où il va, et cette richesse là petit à petit va apporter pour le joueur, pour le supporter, et pour la qualité, je pense, de formation et la qualité de jeu sur le terrain. Et du moment où il y a une variation des entraîneurs français, des Italiens, des Portugais, Espagnols, Tunisiens, Marocains, chacun il va apporter une touche un peu spéciale d'après sa culture, d'après ce qu'il a appris. Et puis ça ne peut que élever le niveau de la formation et le niveau du jeu, j'espère, en tout cas en Algérie.
On va parler de l'équipe de Tunisie, elle est qualifiée pour la Russie 2018. Un mot sur l'équipe tunisienne, la composante, le coach.
Je pense que c'est le groupe là comporte quelques joueurs de talent. C'est pas des extras, mais je pense que ça forme vraiment un groupe homogène qui peut être très très solide. Il l'a déjà démontré pendant la qualification en revenant plusieurs fois au score, en gagnant même des fois par petit score, parce que c'est une équipe qui arrive quand même à défendre très bien et puis à marquer avec quelques éléments, quelques Youssef Msekni, donc c'est des éléments qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment devant. Donc nous, du moment, je pense que la nation ou la fédération tunisienne n'a pas mis comme objectif de gagner la Coupe du Monde, alors je pense que ça serait vraiment une joie immense pour tout le peuple tunisien de voir son équipe joueuse, de jouer. De toute façon, même si on sait jamais dans le football, mais du moment tel qu'on n'a pas ni habitude ni objectif d'aller, dans les quatre, le quatuor dernier, que ça soit demi-finale ou bien la finale Coupe du Monde, alors je pense qu'il faut donner du plaisir à la population tunisienne, à la population nord-africaine, avoir une équipe qui joue, qui présente un bon visage, et ça, c'est comme ce fut le cas, même si c'est du passé, on prend toujours ça comme référence. L'équipe en 78 en Argentine, elle a été décomplexée, elle a joué, elle a montré un bon visage, tout le monde l'a applaudi. Donc j'espère que cette fois la Tunisie elle va pour vraiment vraiment au moins, si c'est pas pour remporter un trophée, c'est au moins remporter une palme concernant le beau jeu et cette comment on dit, cet allant vers l'avant, cette fougue, cette même le flegme un peu nord-africain dans un jeu où il y a beaucoup d'équipes qui vont peut-être se mettre une pression dessus pour passer le deuxième tour ou autre. Nous, on aura tout simplement, à part cet objectif-là qui serait que chiffrable, mais le reste, ça serait plutôt présenter un beau visage sur le terrain, avoir des belles actions de jeu, avoir une équipe qui est portée vers l'avant, qui sait construire le jeu, qui sait maîtriser le ballon, qui sait aller vers l'avant, et avec quelques actions un petit peu de folie de quelques joueurs qui se lâchent. Donc j'espère tout simplement voir du beau jeu, c'est tout.
Comme coach, quels sont vos objectifs sur en Algérie? Est-ce que vous avez l'envie de retourner en Tunisie pour prendre une équipe, l'équipe nationale, rentrer à la DTN tunisienne ou algérienne?
J'ai essayé de dire à tout le monde que pour moi, je ne fais pas de comparaison ni de séparation entre les deux nations. L'Algérie, je l'ai toujours portée dans mon cœur. La Tunisie, c'est le pays là où je suis né et j'ai évolué. Donc, je suivrai toujours mon destin. J'ai même émis le souhait et préparé le dossier pour avoir la nationalité algérienne, tout simplement pour... c'était une réponse à quelques personnes qui se sont un petit peu complexées d'avoir... un Tunisien à la tête de l'MCO, donc j'ai dit haut et fort que je suis d'origine algérienne du côté de mon père et que j'allais prendre la nationalité dont j'ai droit, tout simplement pour qu'un autre jour on arrête de parler de séparation entre telle nationalité ou telle nationalité, mais on juge d'abord sur la compétence. Et si le destin m'amène à être dans l'encadrement de la DTN ici en Algérie, mais c'est un honneur. En plus, j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont toujours cachées dans le fond de mes pensées par rapport à la formation et la qualité du football que j'aimerais voir. Donc là ou ailleurs, moi je ne fais pas de différence. L'important, là où je vais, je dois apporter. Et ne serait-ce que pour les jeunes, pour les vrais footeux, pour les amoureux et les passionnés. Et par la suite, essayer d'avoir que de ces formés-là, de ces jeunes-là, ou de ces talents, ou quelques découvertes, puissent intégrer les équipes nationales et apporter un plus, ça c'est clair. Mais moi, je ne me fixe pas encore d'objectifs réels, à part vivre les aventures telles qu'elles viennent, là. Je suis bien en Suisse, je risque de retourner là-bas aussi, parce que, comme tout le monde le sait, la qualité de vie et le nombre d'années que j'ai passé là-bas, aussi je ne peux pas m'en détacher facilement. Donc j'ai ma famille là-bas, j'ai aussi beaucoup de repères et des moyens, et j'ai aussi une affaire que j'ai un petit peu délaissée depuis mon voyage ici en Algérie en 2014. Donc après le football, il y a toujours une autre vie. Donc moi, je ne me fais pas une fixation. Le jour où je peux réussir et continuer à avoir plaisir avant tout, ben je serai toujours dans le football. Et si le jour le plaisir s'arrête dans le football, je pense que je me suis préparé depuis le début à avoir une autre vie en dehors du football.
Un mot pour conclure.
J'espère et je souhaite tout simplement que le football trouve vraiment les moyens de vivre, de progresser et de faire progresser les jeunes en Afrique du Nord. J'espère tout simplement qu'il y ait plus de collaboration entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, qui sont les quatre nations en Afrique du Nord qui regorgent de talents et qui regorgent de compétents dans les formateurs, dans les entraîneurs ou autres. Je pense qu'il faudrait une meilleure collaboration pour essayer de monter plus souvent des tournois, des séjanges, des joutes footballistiques et autres, afin que les jeunes chez nous arrivent à toucher un petit peu le plus vite possible le plus haut niveau concernant les normes FIFA ou autres dans la formation, sur le plan de si on prend toujours la base, c'est la, à part la technique, c'est toujours la qualité de la condition physique. Et il y a des normes qui sont établies en Europe. J'espère tout simplement que nos formateurs aussi ici en Afrique et surtout en Afrique du Nord arrivent un petit peu à prendre ça comme référence afin de pousser les jeunes à être depuis le début collés au peloton mondial, hein, qu'on soit pas trop décalé. Et puis le jour où on a un joueur qui sort de l'Afrique du Nord, qui intègre l'Europe, la première des choses qu'on lui reproche, on lui dit « Ah, ton état, condition physique, t'es à la rue ». Donc d'abord, rattraper cet état-là. En plus, je sais que de la technique, de tout ce qui est déjà enseigné dans la rue et en naturel, nous, on pourrait être comparable pratiquement l'Africain comme l'Américain du Sud ou autre, mais c'est jusqu'à l'âge de 12-13 ans. J'aimerais bien qu'au-delà de ça, on continue à progresser et ne pas laisser ce fossé se creuser encore plus entre les nations les meilleures au monde et nous qui avons la base, mais on n'a pas malheureusement les moyens de travailler convenablement. Je parle de qualité des terrains, des articles et accessoires d'entraînement, aussi dans la formation des formateurs eux-mêmes. C'est très important de revoir tout à la base. On ne peut pas continuer à faire que de la bricole et puis dire que c'est des urgences. Chaque année, il faut faire quelque chose. Chaque année, il faut faire quelque chose. L'autre fois, j'avais donné un petit peu l'exemple de la Malaisie qui se sont réunis en 2010 pour faire un projet, en 2009 pour faire un projet qui s'arrête de l'évolution du sport, qui s'arrêterait en 2030, donc pratiquement 20 ans, un projet qui va durer sur 20 ans. Nous, on doit avoir cette patience là on doit regarder sur le long terme, on doit se dire voilà, on se fixe des objectifs, et pas forcément ceux de la DTN aujourd'hui quand ils fixent des objectifs qu'ils le sont, ils le sauront à la fin. Non, ils peuvent transmettre tout simplement le témoin à d'autres qui continuent, mais le projet doit aller 10, 15, 20 ans pour essayer de dire voilà, dans 10 ou 15 ans on a quelque chose de solide. Mais on ne peut jamais se dire dans le football voilà, dans une année moi je peux avoir une équipe. Oui, ça peut le faire, mais ça sera pas du solide, ça sera un feu de paille, et puis ça sera quelque chose qui va faire un plouf le plus vite possible. Après quelques mois de gloire, il n'y aura pas de continuité. Donc moi je préfère que vraiment les gens prennent le temps, un petit peu enlever dépassionner un petit peu les débats autour du football et du sport. Je crois que on parle un peu trop d'un sujet qui n'a pas lieu d'être, et souvent c'est le cas, et ça amène les débats passionnés, et puis quand il y a la passion, on a moins de lucidité pour trouver des solutions.
Je vous remercie.